la rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'Édouard Branly. Branly, B-R-A-N-L-Y, c'est un très grand savant, un éminent savant, profondément croyant, et qui a eu beaucoup à souffrir au tournant du siècle parce qu'il était catholique. C'est lui qui a découvert la TSF. Et Marconi l'a reconnu. Marconi l'a reconnu, et malgré tout, partout, on pense que c'est Marconi. Mais non, c'est Branly, Édouard Branly, un Français qui était né en 1844 à Amiens, dans le nord de la France, un physicien français qui est devenu médecin en plus de ça pour pouvoir survivre, et parce qu'il n'était pas payé bien cher à travailler à la recherche dans les laboratoires. Et en même temps, bien, son cœur étant profondément évangélique, mais ce médecin soignait surtout des pauvres, et ça ne lui rapportait pas toujours ce qu'il aurait fallu. Il est mort à Paris en 1940 à 95 ans. C'est vraiment un très grand savant catholique qui a travaillé, beaucoup de gens le savent parce qu'il a travaillé surtout à l'Institut catholique de Paris, qui est l'Université catholique de Paris. Alors, il est donc né à Amiens, là où il y a la plus grande cathédrale de France, hein, tout à fait dans le nord de la France. Et c'est dès sa première enfance, et comme sans effort, on pourrait dire qu'Édouard Branly manifeste un goût, une aptitude de remplir vraiment sa journée de choses intéressantes, d'études, de recherches, et beaucoup de gens trouvaient, même quand il était jeune, qu'il était trop curieux dans ce côté-là. D'ailleurs, dès le début, il témoigne d'un espèce d'équilibre physique solide qui lui permet très vite d'avoir une maîtrise de soi, et qui en fait un enfant vraiment séduisant et puis des plus charmants. En fait, de qualité innée puis de goût personnel, Édouard Branly, qui en a beaucoup, il a dû les réfréner à cause de ce qu'on pratiquait beaucoup à cette époque chez les enfants, l'obéissance. Pourquoi? C'est parce qu'à la maison, son père, le cher Monsieur Branly, ne s'intéresse qu'à la littérature. C'est un homme de lettres, un fin lettré, et qui lit beaucoup. Il n'imagine pas de joie supérieure, lui, à celle que produisent dans son cœur ses auteurs favoris que l'on n'y probablement plus aujourd'hui, parce que la littérature évolue tellement que rares sont les hommes de lettres qui survivent au balayage. Alors, son père s'imagine, sans mauvais entêtement, que l'intelligence vive de ses enfants les destine au même plaisir intellectuel et littéraire que les siens. Il n'empêche pas, quand même, la curiosité de son Édouard. Parce que son Édouard cherche toujours à satisfaire sa curiosité dans des études qui ne sont pas tellement intéressantes pour son père. Un jour, son père trouve son fils comme en extase, si on peut dire, devant une locomotive sous pression. Et c'est une époque où le monstre qui est une locomotive jette la panique, l'angoisse. À travers la campagne, tout le monde voyant passer une locomotive, ça faisait peur aux gens. On n'a pas idée, il faut lire ça, hein, comment c'était dans ce temps-là. Un de ses amis, d'ailleurs, qui note dans son journal un détail intéressant. Hier, Édouard, mon ami Édouard, m'a expliqué la marche de la locomotive. Et je trouve maintenant cela fort simple parce qu'il m'a fait plusieurs dessins et j'ai bien compris comme quoi Édouard, tout jeune, pouvait enseigner les sciences. C'est étonnant, ajoute-t-il, que la découverte ne se soit pas faite plus tôt. Je voudrais bien que ma mère me fasse monter dans le train. Cet ami s'appelait Martin. Et il va attendre 8 ans encore, le jour où il pourra satisfaire son grand désir. Mais heureusement, les parents d'Édouard ne sont pas comme ça. Ils attendent pas longtemps, eux. Ils redoutent pas les innovations, lorsqu'elles ne mettent pas l'âme en péril, évidemment. Alors, il donne, dès les premiers voyages réguliers, l'occasion à Édouard d'écrire cette lettre à son frère Philippe. C'est assez curieux, cette lettre d'un enfant qui vient de faire son premier tour en locomotive. Il dit « Le voyage s'est très bien passé. Malheureusement, nous n'étions pas reconnaissables à l'arrivée, car une suie des plus noir, s'était chargé de nous peindre un ramoneur. Vous savez, les ramoneurs, c'est les jeunes qui descendaient dans les cheminées pour ramoner les cheminées. J'explique ça pour les jeunes qui ne savent pas, là. Et parce que les cheminées, ça s'engorgeait de crasse, et il fallait enlever ça pour que les cheminées puissent fonctionner dans les maisons et qu'on puisse se chauffer des maisons. Et les ramoneurs, ben, étaient tout noirs. Alors, au fur et à mesure des années, Édouard Branly devient plus certain d'éprouver une attirance bizarre pour la science. Là, et le baccalauréat est pour Édouard Branly, d'ailleurs, une sorte de triomphe. Hein, c'est à l'adolescence. Les examinateurs, désireux de récompenser son savoir aussi exceptionnel, lui font un cadeau. Lui donne un petit montant. D'argent, c'est-à-dire qu'il lui rembourse les droits d'examen. Pour un garçon de son âge, c'était un gros cadeau. C'était pas énorme, hein, les droits d'examen. C'était quelque chose comme 2 francs, ou 5 francs peut-être. Et quand Édouard Branly reçoit dans ses mains la pièce d'or qui se trouve à récompenser ses 10 années d'études exceptionnelles, il est si joyeux, écoutez ça, qu'il se précipite vers son père, auquel il compte les heureux événements, puis, comme un enfant de son époque, je me souviens, moi, les premiers travaux que j'ai faits dans les années 30, on faisait ça, on remettait tout notre argent à notre père, à notre mère, si on faisait 10 dollars par semaine, bon, on donnait 10 dollars, ça finissait là, on gardait rien pour soi. Alors, le père, lui, qui est aussi de son époque, il empoche purement et simplement cet or. Et puis, c'est ce que raconte sa fille à Édouard Branly beaucoup plus tard, comme quoi les temps ont bien changé. Et voilà donc Édouard Branly, avec ses baccalauréats lettres philosophie en poche, et il part pour Paris, où il fait une année de mathématiques au lycée Napoléon, dans la classe de M. Dezin, qui va avoir une certaine importance dans sa vie à un moment donné, quand il est jeune. C'est parce que c'est l'ami de son père. Et à sa sortie, en 1867, il a 23 ans, tout rentre dans l'ordre lorsqu'il obtient le numéro 1, imaginez. Il est licencié en sciences physiques. Il a passé avec succès l'agrégation, ce qui est très important. Il est nommé professeur, donc, avec l'agrégation, il a le droit d'enseigner, à Bourges, au lycée de Bourges. Mais il ne restera pas là longtemps, il part un peu à reculons. Pour cette jolie ville, il y a une belle cathédrale à Bourges encore. Et c'est, il n'y a que des délassements artistiques, là, et ça ne l'intéresse pas tellement, les délassements artistiques. Il dit, j'ai suivi vos conseils. Et si ma carrière me conduit dans des villes situées au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je connaîtrai un jour, comme vous, tous les châteaux de France. Il est un peu moqueur. Mais ce ne sont là que des consolations pour lui. En dehors de ses cours, dont la préparation n'absorbe qu'une courte partie de son temps, il ne trouve pas ce que son désir profond cherche. Qu'est-ce que c'est? Il cherche un laboratoire. C'est un homme de laboratoire, de recherche. Et voilà qu'il se confie et que dans une lettre, il écrit qu'il se sent devenir épais à ne pas faire de recherche et à ne faire qu'enseigner. C'est tout l'inconnu de la science qui l'attire et qui l'appelle. C'est un homme essentiellement curieux. Tout ce qui l'intéresse, c'est un laboratoire. Et c'est cet inconnu à la conquête duquel il s'élance lorsqu'un matin, il décachette une lettre de son vieux professeur de physique de Saint-Quentin et du lycée Napoléon, M. Paul Dezin, dont je vous ai parlé, et celui-ci nommé directeur du laboratoire, justement, d'enseignement de physique à la Sorbonne, à Paris, il lui indique que ce qu'il faut faire pour être nommé à ses côtés, chef de travaux. Alors, 15 jours plus tard, c'est déjà fini avec l'enseignement. Il regagne Paris. L'épreuve n'a pas été bien longue. Il est resté seulement 3 mois à Bourges, et sa vocation est nettement déterminée, c'est le laboratoire, pas la salle de cours. Et le voici donc dans un laboratoire où, selon les rapports, je cite, « chacun peut s'exercer à reproduire avec ses appareils les brillants phénomènes de l'optique, et tous se familiarisent avec les mesures électriques et les déterminations magnétiques de tout genre. » Et c'est exactement ce qu'il lui faut. Alors, aux côtés de ce M. Dezin, D-E-S-A-I-N-S, Branly a commencé de travailler. L'interruption de la guerre de 1870, la fermeture du laboratoire, Ça s'acharne à remettre perpétuellement le travail de longue haleine auquel Branly se destine. Enfin, la réouverture du laboratoire permet à Branly de pousser sérieusement les travaux qui vont former la base d'une thèse de doctorat dont je vous fais grâce. Et cependant, il ne rencontre pas que des facilités sur son chemin. Plus tard même, il va déclarer, le professeur Dezin, qui était directeur du laboratoire de physique en Sorbonne, m'a pris comme adjoint. J'ai préparé ma thèse auprès de lui, mais il ne m'a pas accordé d'emblée toute l'aide que je pouvais espérer. Et j'ai dû fabriquer mes appareils de mes mains, l'électromètre, et la balance de Coulomb. Mais comme Branly est patient, et que, pour aboutir, la condition première est de se faire tour à tour menuisier, forgeron et ajusteur, il n'hésite pas. Il n'y a pas de regret. Il ne se fâche pas. Il s'empare de l'établi, puis du marteau, puis travaille. Son seul souci, c'est que tout le temps qui passe à sœur a été mieux utilisé à faire de la recherche. En 1873, Branly soutient sa thèse de doctorat. Il a 29 ans. À ce moment, il peut faire suivre son nom des titres suivants. Il est devenu licencié sciences mathématiques, licencié sciences physiques, agrégé de l'université en sciences physiques et naturelles, professeur au lycée de Bourges, directeur adjoint du laboratoire d'enseignement de physique à la Sorbonne. Ça fait très impressionnant pour un jeune homme. Alors, dans quelques années, il va être aussi, comme je vous ai dit, docteur en médecine. Et voilà que Branly, qui a pardonné à Paul Dezin les difficultés de lui avoir refusé le concours de préparateur, mais qui a continué tant bien que mal ses travaux en dépit des terribles vibrations du laboratoire de la Sorbonne, parce que ça vibre et Branly, que jamais un obstacle matériel n'aurait découragé. Mais il réagit avec vivacité lorsqu'il comprend que sa sécurité morale est menacée. Comment ça? Il n'admet pas qu'on s'introduise dans sa vie privée. Et comme il ne lui convient pas de marier la fille de Dezin, parce que Dezin veut absolument qu'il épouse sa fille, il démissionne de son poste de directeur adjoint du laboratoire. Et sans demander congé ni de quelques mutations de poste, il se ferme à jamais les portes de l'université de la Sorbonne, et on peut rester surpris, il est devant rien, tout simplement parce qu'il n'est pas question pour lui d'épouser quelqu'un pour monter en grade et pour faire plaisir à son supérieur. C'est un homme honnête et qui ne comprend pas le mariage de cette façon-là. Il a bien raison. Il s'est fâché, au fond, il y a une espèce de violence en lui, mais c'est très rare, très très rare. C'est parce que c'était pour lui très grave, c'était... Il en tenait à sa vie, à son mariage. Et c'est peut-être le premier éclat, le seul même qu'on ait à relever au cours de toute sa vie. Curieux, c'est à... Même pas fâché quand on l'a traité de façon extrêmement injuste, vous allez voir tout à l'heure. Sans prétendre percer vraiment les raisons profondes, il y a un domaine qu'on peut comprendre chez Branly et sur lequel il plaisante pas, c'est celui de l'honnêteté. Ça, il entend pas rire là-dessus. Qu'il s'agisse d'argent, qu'il s'agisse de découverte, son désintéressement et son absence totale de vanité sont légendaires. Quand on parle de Branly, c'est qu'on parle de quelqu'un de modeste, d'humble, d'authentique, un vrai chrétien. L'idée seule d'un marchandage lui est pénible, d'ailleurs. Aussi, la pensée qu'il aurait pu payer sa carrière au prix d'un mariage qu'il ne désirait même pas. La pensée que peut-être c'était le moyen de pression dont on usait à son égard, là. C'est ça, c'était de nature à blesser gravement sa sensibilité. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà Branly sans situation, plus que jamais désiré aussi de poursuivre ses travaux, est à l'affût d'un laboratoire sans vibration, où ça bouge pas du tout. Quoi qu'il en soit, voilà Branly, donc, devant rien, et Dieu intervient, oui, Dieu intervient. Dieu lui envoie l'abbé Dulst. Souvenez-vous, je vous ai fait une émission le 6 novembre 96 sur cet homme extraordinaire, Monseigneur, qui était recteur de l'Institut catholique de Paris, Monseigneur Maurice Le Sage d'Haute-Roche Dulst, qu'on appelle simplement Monseigneur Dulst, qui est mort en 1896, il y a un peu plus de 100 ans. Alors, des circonstances qui préside à leur rencontre, on sait peu de choses. Ce qui est certain, c'est que cette rencontre a lieu juste au bon moment, alors que l'abbé Dulst, c'est D'HULST. Donc, l'abbé Dulst recherche des professeurs pour l'université catholique qui est en train de fonder, qu'on appelle aujourd'hui l'Institut catholique. Et Édouard Branly n'a pour vivre que quelques sommes qu'il ramasse ici. Sa situation est très difficile. Et non seulement l'abbé Dulst se prend très vite d'amitié pour ce jeune savant, il lui offre même une chaire, c'est-à-dire l'enseignement. Mais encore, il lui promet qu'on utilisera dans l'ancien couvent des Carmes, vous savez, sur la rue Cassette, là, à Paris, pas loin de l'église Saint-Sulpice, où l'on va s'installer, et il lui promet une pièce qui, provisoirement, va lui servir de laboratoire. C'est là, au couvent des Carmes, qu'est enseveli le bienheureux, le fondateur de la Saint-Vincent-de-Paul. Et comme la loi qui vient d'autoriser l'ouverture de l'université catholique risque d'être annulée, là, Branly songe à s'assurer un moyen d'existence indépendant, parce que le gouvernement n'aime pas les catholiques et il n'est pas question qu'on fonde une université catholique. Donc, tout en faisant son cours à l'université catholique, voilà Branly qui, en 1879, à 35 ans, commence ses études médicales, parce qu'il faut bien vivre. Il s'arrange pour prendre des répétitions le soir, ça lui rapporte quelques sous. En 1882, il est reçu docteur en médecine avec une thèse assez savante. Et ce sont les... je vous donne le titre de la thèse, c'est « Dosage de l'hémoglobine dans le sang par les procédés optiques ». Et ce sont les procédés, d'ailleurs, qu'il met au point, qui ont permis depuis, à de grands savants étrangers, de réaliser la conservation du sang des cadavres, si importante pour la transfusion. D'ailleurs, il y a un grand savant de Moscou qui dit que c'est cette thèse de Branly qui l'a mis sur la voie, lui. Ça a un grand retentissement. Et Branly, lui, désire ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il songe que sa formation le destine à préparer l'agrégation de physique médicale, qui va réaliser la synthèse de toutes les études qu'il a menées jusqu'ici, et qui, depuis, en lui assurant une chaire d'enseignement à la faculté de médecine, va lui permettre de vivre normalement. Un prof de médecine, ça vit relativement bien. Alors, il n'est jamais sûr du destin de l'université catholique quand même. Pour préparer de cette agrégation, il lui faut l'autorisation préalable du doyen de la faculté de médecine. Et cet homme s'appelle Gariel. C'est un curieux bonhomme. Il s'est fait la réputation d'un homme affable et accueillant, mais il est très, très anti-catholique. Et au premier mot de Branly, il l'interrompt brutalement et dit « Quoi? Vous êtes professeur à l'université catholique? Eh bien, restez-y. » Et il fait semblant de se lever comme pour mettre fin à l'entretien, pour signifier, c'est ce qu'on fait, hein. On fait semblant de se lever, puis la personne doit sortir. C'est que Branly a commis à ses yeux, à cet homme, qui n'est pas n'importe qui, c'est le doyen de la faculté de médecine, Branly a commis un crime hebdomadaire. Vous devinez quel crime, hein? C'est suffisamment grave, ce grand crime, pour qu'en dépit de sa valeur même, il soit écarté des postes officiels de la Sorbonne, où il aurait pu servir son pays. Imaginez, son crime, il va à la messe le dimanche chaque semaine. Et cette seule pensée suffit pour faire de M. Gariel, pourtant reconnu comme très affable, un fanatique et, à mon avis, un parfait imbécile. Quant à Branly, il murmure seulement, lui qui est modeste, il n'avait pas le droit de me répondre cela. Et dans une lettre de cette époque, il en parle sur un ton qui est la mesure de sa sérénité puis de sa foi profonde. Il écrit à un ami, « Je ne te parlerai pas longtemps de moi parce que ce n'est pas intéressant. On vient de me refuser l'autorisation de préparer l'agrégation de médecine sans raison valable. Ce contretemps me peine plus que je ne veux l'exprimer. Il y a là une grande injustice. Je t'en parlerai à mon prochain voyage. » En voilà la grandeur d'âme de ce savant catholique. Mais ce n'est pas tout. On serait trop insisté à propos de la vie de Branly sur l'absence de vanité qu'il caractérise, et plus encore sur le respect des autres, qui ne cesse jamais de manifester. Il y prie entre ses aspirations personnelles, puis la volonté de son père, évidemment, que dans son jeune âge, alors on l'a vu obéir. Mais il a fait son choix définitif, et à la veille d'entrer à l'école normale, il a suivi une carrière littéraire qui ne l'a pas attiré. Il a fait des études de lettres. De toute façon, il a un bon ami qui lui présente une jeune fille remarquable, Marie Lagarde. Et le 10 juillet 1882, il l'épouse dans la cathédrale de Verdun. C'est une jeune fille formidable. Et c'est maintenant que nous entrons dans la période la plus féconde de la vie de Branly, la plus pleine aussi. Celle où, on peut dire, ce monstre de travail qu'est Édouard Branly va réussir, sans rien perdre de sa modestie, à remplir les devoirs de deux professions, sans que cela l'empêche de faire au monde ce grand cadeau extraordinaire dont je vous ai parlé au début, de la télégraphie sans fil. Oui, de la TSF, la télégraphie sans fil, c'est bien lui qui l'a découvert. Et d'abord, il est professeur à l'Université catholique devenu, depuis la promulgation de la loi de 1880, qui est une loi anticatholique, c'est devenu simplement l'Institut catholique, et ça s'appelle toujours simplement l'Institut catholique, cette université remarquable à Paris. Pas le droit d'appeler ça une université. Tous les ans, il prépare un nouveau cours, objectant seulement à ceux qui voudraient le soulager de cette tâche. Prouvez-moi que c'est inutile, et je cesserai de le faire. Mais cela ne l'empêche pas d'exercer ses fonctions de médecin dans un cabinet de médecine qu'il a ouvert à Clichy. Il y donne ses consultations l'après-midi, reçoit ses patients l'après-midi. Puis à l'origine, il a voulu être médecin pour assurer la stabilité matérielle de sa famille. Mais il a compté sans le goût des recherches et surtout sa charité immense à l'égard des pauvres malades du quartier de Clichy. Et sans vouloir rien exagérer, il faut reconnaître que le docteur Branly a deux fois plus de mal qu'un autre à gagner sa vie, parce qu'il est pris entre les deux désirs bien désintéressés de ne pas faire payer les pauvres, puis d'utiliser ses connaissances biologiques pour poursuivre des recherches sur l'influx nerveux, qu'il sera le premier à rapprocher du courant électrique. Vous allez voir. Le voilà donc préparant des étudiants de physique à la licence. Il imagine pour eux des problèmes, il corrige leurs devoirs, il met son cours au point, il enseigne, il professe son cours. Et puis, l'après-midi, il court de l'autre côté, de l'autre extrémité de Paris, là, puis il se penche sur la souffrance, il réconforte les malades, il prescrit des remèdes, il applique un traitement qu'il a mis au point, puis malgré tout cela, au-dessus de tout cela, il poursuit des expériences personnelles dans son laboratoire, car il y a le laboratoire, le fameux laboratoire qui a fait couler tant d'encre, où il se trouve lorsqu'il satisfait ses obligations professionnelles. Et quelqu'un a laissé une description, un journaliste a laissé une description d'Édouard Branly dans son laboratoire. C'est très étrange à lire. Je vous en lis un petit passage. J'ai dit, ce journaliste, au milieu de la salle, près d'un minuscule poêle d'asile de nuit, dont le tuyau fait des zigzags vers le plafond, un monsieur, un petit vieux, est assis. Il écrit sur le coin d'une table, large comme un guéridon et à demi caché sous des paperasses. Au milieu de cet entassement presque surnaturel et sous la brise des courants d'air, il fait songer aux veilleurs de nuit d'un chantier de démolition. Sur le dos, ce vieux monsieur porte une espèce de redingote hors d'usage. Et sur le nez, un binocle, c'est une paire de lunettes, un binocle en fer, au bout duquel pend un cordon couvert de nœuds. Évidemment, c'est un portrait de journaliste, c'est une charge. Mais il faut retenir la peinture du laboratoire. À quelques exagérations près, c'est bien là le décor, la maison natale de la télégraphie sans fil. Oui, c'est là que va naître la télégraphie sans fil à l'Institut catholique de Paris. Alors donc, on arrive au laboratoire là où il travaille. D'ailleurs, lorsque l'abbé Dulst, le recteur de l'Institut catholique de Paris, a offert un petit cagibi, un petit réduit, qu'on peut dire, comme laboratoire à Édouard Branly, l'abbé Dulst a précisé qu'il s'agissait d'un laboratoire provisoire. Hein? Provisoire. Ça va durer une cinquantaine d'années. Puis d'ailleurs, il faut tout dire, les vibrations n'étaient pas beaucoup moins violentes que dans le quartier de la Sorbonne. Mais Les obstacles matériels, on le sait, n'arrêtent jamais Branly, lui. C'est un solide. Ça contribue plutôt à lui faire donner le meilleur de lui-même. Et voilà bien longtemps qu'il cherche. Des années, il cherche. On a beaucoup épilogué sur les grands hommes, dont la spécialité est de faire les plus grandes découvertes, souvent dans la pauvreté, hein, avec des instruments de fortune, dans un décor invraisemblable, un peu comme celui d'Édouard Branly, puis un désordre de préférence indescriptible où on ne sait pas comment ils font pour se retrouver. On a souvent regretté aussi l'inconséquence des gouvernements, oui, les gouvernements qui songent sans doute qu'on n'a pas besoin de savants, et puis ces gouvernements demeurent insensibles à cette grandeur modeste. Puis ils laissent des gens qui ont du génie se débattre au sein de toutes sortes de difficultés. Pour tout dire, même le public, immense, de ceux qui n'inventent rien, éprouve une espèce de satisfaction évidente à constater comme ça les difficultés matérielles des savants. Et on reconnaît alors la marque évidente et incontestable du génie, parce qu'on dit « il a travaillé dans la pauvreté ». C'était comme ça. C'est moins comme ça aujourd'hui. Hein? Puis en dépit de l'injustice d'une telle attitude, en dépit des exagérations aussi auxquelles a donné lieu la soi-disant pauvreté d'Édouard Branly, faut bien reconnaître le mérite qu'il a eu de poursuivre des travaux dans des conditions semblables. Cela, d'ailleurs, devait le gêner moins qu'un autre encore, parce que Branly, en effet, il s'attache qu'au but poursuivi, lui. Et si la pauvreté de son installation le fait grogner un petit peu parfois, c'est parce qu'elle est une occasion de perte de temps, c'est pour ça. Et jamais parce qu'il la trouve indigne de lui, il n'a aucune prétention. Les apparences ne comptent pas pour lui, c'est un homme simple, Édouard Branly. Et pour l'heure, ce qui importe, c'est de tirer parti des expériences faites en 1873 par le fameux Maxwell, qui, étudiant la propagation d'une perturbation électromagnétique à travers l'espace, avait montré que celle-ci devait se faire avec la vitesse de la lumière. Alors, en suivant cette idée, Édouard Branly, depuis des années, il cherche à établir à distance un échange de signaux entre un appareil émetteur et un appareil récepteur. C'est comme ça qu'on va pouvoir enfin, à la surface de la Terre, transmettre des messages instantanément. Et pour cela, il a imaginé de multiples combinaisons. Les jours succèdent aux jours, les mois aux mois, et sans se lancer, Branly essaie de nouveaux dispositifs, et un jour, sur une table, après 100 expériences, il établit un circuit fermé. Alors, piles, galvanomètres et tubes à limaille fines d'aluminium, d'antimoine, de cadmium, de zinc et de bismuth, et à quelques centimètres, un éclateur, d'où il fait jaillir une étincelle. Le galvanomètre dévie. Le cœur battant, Branly renouvelle l'expérience en éloignant l'éclateur. Elle réussit de nouveau. Alors on transporte l'éclateur dans une pièce éloignée, de l'autre côté de la cour de l'Institut catholique. Le galvanomètre dévie toujours lorsque, à 20 mètres, on produit l'étincelle. La télégraphie sans fil est née, oui, la TSF est apparue, et avec un calme peut-être un peu affecté, car la joie emplit son regard, Édouard Branly dit à son préparateur, « Nous avons obtenu un résultat. » Et dans la solitude féconde de son laboratoire, eh bien, la vie de Branly continue, et sans relâche, il perfectionne sa découverte, et sans publicité ni souci d'intérêt, non, il se borne à retracer, en termes simples, les résultats qu'il obtient dans des communications à l'Académie des sciences. À l'étranger, on a déjà orienté des travaux dans le sens de ses recherches, on en profite. Mais en France, personne n'en parle. Il est catholique. Au début, sa modestie n'en souffre pas. Il ne s'en aperçoit même pas. Branly est vraiment un chrétien pétri d'évangile. Mais au fur et à mesure que les années passent, il faut bien se rendre à l'évidence. Le silence prolongé qui entoure son nom et ses travaux et ses découvertes n'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a presque honte de le dire, mais aux environs de l'année 1900, on n'est pas tendre. En France, pour les grands Français. La vogue est alors au nationalisme à rebours. On connaît ça ici au Québec, hein? Cette fausse pudeur, ce snobisme qui consiste à rabaisser tout ce qui vient de France et pour nous tout ce qui vient du Québec. Tout ce qui porte le nom de français. Aujourd'hui, oh mon Dieu, allons-nous en sortir de cette espèce de fausse pudeur? Pour Branly, il n'y a pas que cela, il y a aussi et surtout qu'il est catholique, comme je vous ai dit, et que son catholicisme est voyant, car il en a fait la trame de sa vie, en même temps que sa raison profonde. Faut pas oublier qu'on sort du siècle du scientisme, où on pensait que la science expliquerait tout. On n'avait pas besoin de son intelligence, il suffisait de constater des faits, et tout ça expliquait tout. Que c'est ridicule! On n'oserait pas avouer qu'un grand savant, rigoureusement attaché au réel, c'est-à-dire à ce qui se voit et à ce qui se touche, puisse porter, ou attacher importance, si vous voulez, à toutes ces espèces de petites fables puériles de la religion, comme on pense en dehors du catholicisme, comme si c'était des fables. Alors, on préfère organiser autour d'une gloire sans tache, la plus infâme des conspirations du silence, comme a dit quelqu'un. Plutôt que de laisser dire dans les journaux français, dans les écoles françaises, qu'un grand savant s'est révélé et qu'il va à la messe. Oh, on peut pas dire ça. Quelle horreur, il va à la messe. On lui a refusé une chaire à la faculté de médecine, pour cette raison. On n'est pas pour lui accorder une gloire mondiale à ce catholique. Quand même, on est anticatholique ou bien on ne l'est pas, hein? Aussi, on fait croire, en tout cas, que l'inventeur du tube à limaille, c'est l'anglais Lodge. On attribue les expériences de Branly à Maxwell. Un certain Voisinat s'empare de l'expérience d'un physicien italien Calzecchi et s'attache à montrer que Branly n'a fait qu'une pseudo-découverte. Mais attendez, vous allez voir. Enfin, lorsque Marconi entreprend l'application des ondes électromagnétiques aux communications lointaines, là, on confond dans une même admiration la mise au point de l'application et la découverte du principe, parce que la découverte du principe, c'est Branly. Devant tant d'injustices, on peut dire même, je dirais des cœurs en tri, Branly, évidemment, souffre. Mais il n'y a pas de révolte, son âme est trop sereine, trop attaché aux seules réalités spirituelles dont il vit. À ce point qu'il écrit à Lodge, l'anglais, pour lui demander que l'on cesse d'appeler tube de Lodge le tube à limaille. Il reçoit d'ailleurs de Lodge une lettre de rétractation fort correcte. Gentleman, c'est ce Lodge. Branly reçoit la lettre, la laisse comme ça dormir dans sa poche. Il n'imagine même pas qu'il pourrait, comme tant d'autres, le ferait, j'imagine. Il pourrait la communiquer aux journaux. Non, il laisse faire. Et dans cette querelle en paternité, si on peut dire, dont il ne comprend pas bien comment elle a pris naissance, il n'a qu'un souci, c'est celui de la vérité, préciser clairement la part de chacun, et il s'y applique sans fausse gloire ni fausse modestie. Il déclare, voici ses paroles, « Dans la télégraphie hertzienne sans fil, il y a un transmetteur et un récepteur. » Le transmetteur est l'oscillateur de Hertz. Le récepteur est le tube à limaille de mes expériences de 1886, employé avec le même dispositif que le mien. Sa construction et l'usage qu'on peut en faire pour une transmission de signaux se comprennent par la lecture de la première expérience que j'ai décrite dans ma communication à la Société physique en avril 1891. Et écoutez bien, Édouard Branly continue, « Le physicien Calzecchi, dont les expériences ont été rapprochées des miennes par M. Voisinat, je vous en dis un mot tout à l'heure, a observé des accroissements de conductibilité sur les limailles, mais elle se trouvait en communication directe avec un appareil producteur de courant induit. Cela ne faisait pas prévoir l'action à distance et n'aurait pas conduit aux essais de Marconi. « Mon tube à limaille, continue Branly, est un révélateur sensible de courant induit. Sans changer mon mode opératoire, limaille, élément de pile et galvanomètre, Lodge en a fait usage pour répéter les expériences de Hertz. Il ne s'agit là encore que de courant induit, exalté par la périodicité, et cette application directe et toute naturelle n'ajoute rien à la valeur de mon procédé. » J'ai toujours écouté bien attaché à mes recherches une grande importance théorique et pratique. Aussi, mon étude a-t-elle été patiente et elle a assis les bases d'un nouveau chapitre de la conductibilité électrique. Les phénomènes que j'ai observés sont trop multiples pour que j'y insiste actuellement. Je ferai seulement remarquer que depuis mes expériences de 1891, bien que de nombreux savants étrangers les aient reprises, aucun fait n'y a été ajouté. C'est capital. C'est peut-être un peu difficile tout ça, mais les ceux qui s'occupent de sciences, de physique, qui m'écoutent, les jeunes, les étudiants, ceux qui ont fait des études là, j'espère que vous avez compris. Quant à nous, les profanes comme moi qui s'intéressent davantage à autre chose, eh bien, attendons. Les grands moments s'en viennent. Dans le temps même où Branly et Crisseling qui remettent choses et gens à leur place, Marconi, lui, met définitivement au point les inventions qui vont permettre l'utiliser grâce à un relais inscripteur Morse. Vous savez le Morse, la découverte de Branly. Et comme Marconi n'est pas seulement un savant, mais un homme pratique, au lieu de faire son expérience puis de la décrire dans une communication, il cherche et il trouve, à Londres, les concours financiers qui lui sont nécessaires. Alors écoutez bien ce qui va se passer le 28 mars 1899, c'est dans un an, le 100e anniversaire, eh bien la première dépêche, on va célébrer ça sans doute, qui ait jamais traversé la Manche, parvient à Branly. Oui, il l'adresse à Branly, Marconi. Elle était ainsi libellée, écoutez bien le texte, quel homme que ce Marconi, quel homme honnête, hein? Monsieur Marconi envoie à Monsieur Branly ses respectueux compliments par le télégraphe sans fil à travers la Manche, ce beau résultat étendu en partie aux remarquables travaux de M. Branly. Alors aucun hommage ne pouvait davantage toucher Édouard Branly, hein, dans l'ignorance hostile qui l'entoure. Il ne put s'empêcher de murmurer en songeant à cet étranger, Marconi, que c'est un homme honnête. Ce qui dans sa bouche n'est pas un mince compliment. Hein. Il y a environ 10 ans que Branly a annoncé sa découverte lorsque la République doit de mauvaise grâce se mettre à la remorque des pays étrangers, qui ont fait déjà de Branly un académicien et le titulaire de décoration. Alors, à l'occasion de l'exposition de 1900, il reçoit les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, en même temps que grand prix de l'exposition. Il était temps. Et c'est en 1905 qu'une grande conférence est organisée au Trocadéro. Et ça va permettre à Édouard Branly d'exposer à un public largement populaire les détails de sa découverte et de sortir enfin pour la première fois de sa réserve accoutumée. Oh, sans rien perdre pour cela de son humilité. Mais ses joies les plus profondes ne sont pas là. Elles lui sont données lorsqu'il apprend que les passagers d'un bateau ont pu être sauvés. Pensez au Titanic qui aurait pu être sauvé. Qui ont pu être sauvés grâce au sang-froid des opérateurs de TSF, télégraphie sans fil. Dans ces seules circonstances, il rencontre une satisfaction qui soit à la mesure de sa seule ambition sur Terre, qui est de faire le bien. Toujours faire le bien. Facile de comprendre les regrets qu'il éprouve lorsqu'il sait que quelques paquebots français seulement sont dotés d'appareils de TSF, alors qu'à la même époque, en 1908, la quasi-totalité des bateaux américains les avait reçus. Eux, les Américains, sont à l'avant-garde. Et avec l'année 1911, Branly a déjà 67 ans. Alors c'est la dernière offensive que la supposée libre-pensée, c'est plutôt, j'appellerais ça la pensée dictatoriale des athées et des agnostiques, est entreprise contre ce grand savant. L'enjeu de taille, Branly se présente à l'Académie des sciences et ses amis nombreux au sein de l'Académie le pressent depuis longtemps déjà de poser sa candidature. Alors, des amis se sont fait ses champions. Et il y en a un qui a décidé de mettre son journal au service d'une élection que la simple équité commande. Mais Branly, lui, un peu effrayé du tapage, se tient un peu à l'écart. Et dans le camp adverse, eh bien, qui s'est formé, dès que la nouvelle de la candidature à l'Académie des sciences a été connue, d'Édouard Branly, là, bien, on s'agite violemment même, hein. Et l'on a d'autant plus d'espoir d'aboutir que l'Académie des sciences a déjà empêché quelques années auparavant, par son veto, que Branly ne partage le prix Nobel avec Marconi. Saviez-vous ça? Il n'a pas eu le prix Nobel avec Marconi, c'est l'Académie des sciences, tenue par des athées et des agnostiques, qui l'en a empêché, parce qu'il était catholique. Incroyable, c'est incroyable, jusqu'où va la bêtise? Alors, pour faire entrer ce grand savant Édouard Branly à l'Académie des sciences, ça crée bien des disputes, et de part et d'autre, eh bien, on voit les journaux, les revues qui prennent position, puis aux yeux du monde, il y a un débat public qui s'ouvre. Un débat public, écoutez bien, pour savoir s'il est oui ou non incompatible d'être en même temps grand savant français et catholique. C'est incroyable. Un grand savant catholique actuellement, c'est Louis, le prince Ringuet de l'Académie française, qui a publié « Noces de diamant avec la tombe chez Flammarion » et puis « Foi de physicien, un testament d'un scientifique » chez Bayard Édition et Centurion. Lisez ça. C'est très savant, c'est très... J'ai des ouvrages scientifiques, mais il y a des beaux passages chrétiens vers la fin, c'est magnifique. Les croyants, De Broglie, les De Broglie, qui ont découvert toutes sortes de choses. Puis quantité d'autres catholiques, mon Dieu, j'en ai interviewé combien. Enfin, les adversaires de Branly, pour être plus sûrs d'arriver à leur fin, ont suggéré à Marie Curie, qui est incroyante, de se présenter au même fauteuil, et on espère que Branly se désistera par galanterie, puisque c'est une femme. Mais cette légèreté niaiseuse d'une faction sectaire, ça marche pas. Ça attire l'attention ironique du monde entier sur deux noms aussi universellement célèbres, Branly et Curie. Ces faits ont beau appartenir à l'histoire, il est bien difficile de demeurer indifférent lorsqu'ils sont évoqués. Le 17 janvier 1911, Jules Viol fait, devant une assemblée nerveuse, l'apologie d'Édouard Branly et de son œuvre. Il a à peine terminé qu'une discussion véhémente s'élève entre les deux clans à l'Académie. Un débat stérile. Où les plus sensés font remarquer, finalement, qu'à mérite égal, il convient de récompenser, me semble, Édouard Branly, puisqu'il est docteur en sciences, alors que l'autre, Marie Curie, n'avait que 6 ans. Paul de Cassagnac, dans un journal, écrit « La tour Eiffel porte les antennes qui jettent à des milliers de kilomètres, à des postes établis sur le littoral entier de notre pays, à tous les vaisseaux de nos escadres de guerre, à tous les paquebots, les ondes électriques saisies par l'observation de Édouard Branly. Grâce à elle, en quelques secondes, écrit-il, les ministres correspondent avec nos colonies d'Afrique. La télégraphie sans fil a supprimé sur terre et sur mer le problème angoissant des communications en temps d'hostilité. La TSF a sauvé des centaines d'existences déjà en permettant aux navires d'appeler à l'aide. Mais Branly, dont le nom est connu du monde entier, demeure un inconnu pour le monde officiel ici. Il est catholique. Il professe à l'Institut catholique qui lui a ouvert ses portes. Là, avec de pauvres ressources, il continue à travailler, toujours entravé par la misérable question d'argent. Il pardonnera à l'affection fidèle de son ancien élève de faire violence à sa modestie en racontant ces choses. Oui, car si Branly avait su mon dessein d'écrire cet article, il m'en aurait probablement dissuadé. Alors enfin, le 23 janvier, l'élection a lieu et au premier tour, Branly obtient 29 voix. Et Madame Marie Curie, 28. L'agitation devient fébrile. Les adversaires de Branly redoublent leurs efforts, allant de l'un à l'autre pour conjurer le second tour. Mais rien n'est fait, et Branly est enfin élu au second tour avec 30 voix. Ainsi, une juste récompense vient enfin, non ajoutée à la gloire du savant, mais lui apporter une consécration officielle. Il s'en serait sans doute aisément passé, lui. Mais ça aurait été pénible qu'un pays comme la France ne lui rende pas cet honneur. Il a 76 ans. En 1911, il accepte, ainsi que ses amis, à faire reconnaître sa gloire par son pays. Et si son humilité n'en souffre pas, c'est en partie parce que dans toute cette affaire, on le voit peu paraître. Il est tout entier absorbé par son travail dans son laboratoire, dans son travail de médecin aussi. En partie aussi parce qu'il est trop vraiment grand pour jouer à la fausse modestie. Mais lorsque l'année suivante, en 1912, Marconi vient lui offrir une place dans un conseil d'administration et des appointements énormes, ou si simplement qu'il a accepté l'année précédente un honneur qui rejaillissait sur son pays, d'être à l'Académie des sciences, et bien Brandil, cette fois-ci, refuse. Il refuse l'offre de Marconiste. Il veut à aucun prix accepter des appointements qui ne soient pas, dit-il, justifiés par son travail. Quel homme! Et durant toute une vieillesse féconde, qui va se prolonger jusqu'en 1940, Branly continue de se rendre ponctuellement à son travail, toujours simple, toujours bon et modeste, plein d'humilité. Seul bouleversement dans ses habitudes, la prise de possession en 1932 d'un laboratoire définitif, offert par un homme très riche, un mécène. Il l'a attendu 50 ans. Édouard Branly s'éteint en 1940. Quel jour? Au soir du jour de Pâques. Comme Teilhard de Chardin, le père Teilhard de Chardin, 15 ans plus tard, va mourir aussi à Pâques. Ainsi se termine cette vie extraordinaire d'une grande âme qui est appelée à Dieu en un jour de résurrection. Il avait 95 ans. On dit de lui dans tous les dictionnaires, il mit sur pied les premières radiocommunications. Qui le sait? Ce n'est pas vraiment Marconi, non, c'est lui, Édouard Branly, un grand savant catholique, un très grand savant, un homme de foi. D'ailleurs, quand on lit les ouvrages de Louis le Prince Ringuet, on trouve des textes tellement magnifiques. Je lis ici quelque chose de Louis le Prince Ringuet. Pour nous tous, quelle que soit notre orientation, nous tous qui aspirons au bonheur, sachons qu'il exige, associé dans un effort continu, l'amour de la vie, l'émerveillement quotidien, l'attention aux êtres et aux signes, le don, la générosité sous toutes ses formes, et pour les croyants, la prière et la communion des vivants et des morts. Il ajoute que le lecteur me permette de clore ces pages, sans doute trop intimes, par un extrait de la prière que mon épouse aimait redire chaque soir depuis 1929, et qui est du père de grand maison que j'ai connu à tel endroit, quand il assumait la charge d'aumônier de l'école. Gardez-moi un cœur d'enfant pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses. Un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion. Un cœur fidèle et généreux qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant, sans demander de retour, un cœur grand et indomptable qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse. Et Louis le Prince Ringuet ajoute, c'est bien la clé du bonheur pour tous, croyants ou incroyants. Pour les chrétiens, c'est le message du Christ, celui de l'Évangile, qui, dans la mesure où l'on parvient à le suivre, au-delà des égoïsmes, des routines, des vanités et des tricheries, des lâchetés de l'existence quotidienne, procure à chacun de nous un merveilleux potentiel de dépassement, un vrai et profond bonheur. Je crois que ça décrit très bien Édouard Branly un siècle plus tard. Je vous rappelle les titres des livres de Louis le Prince Ringuet de l'Académie française, très grand savant, Noces de diamant avec la tombe chez Flammarion, ainsi que Foi de physicien, testament d'un scientifique, chez Bayard Édition Centurion. Ce sont des ouvrages récents.